Le journal Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les cinémas, les centres de vacances, les casinos pourront tous ouvrir dès lundi en France. Les stades également, à partir du 11 juillet. L'exécutif a assoupli le confinement cette nuit.
Et voilà qui contraste avec les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé. Le monde est entré dans une phase dangereuse, dit-elle. Il n'y a jamais eu autant de contaminations au nouveau coronavirus.
Un virus qui se répand aux États-Unis, notamment en pleine contestation contre les violences racistes. Mais Donald Trump passe outre. Il sera en meeting ce soir en Oklahoma. Nous irons sur place dans ce journal et nous accueillerons aussi, Caroline, un invité exceptionnel.
Tout à fait, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, sera notre invité à partir de 8h15 à l'occasion de la journée mondiale pour les réfugiés.
Restez avec nous donc, d'autant que vous comprendrez ensuite dans cette édition la détresse de l'industrie musicale. Le secteur anticipe une perte de chiffre d'affaires de 43% cette année. Le confinement ne sera-t-il qu'un souvenir dans quelques temps en France ? Pour effacer au plus vite les traces de la crise sanitaire et économique, le gouvernement lâche un peu plus de lest et autorise certains rassemblements, certaines ouvertures. Matignon l'annonçait cette nuit après un conseil de défense. Il y a des mesures attendues et d'autres plus surprenantes, Armelle Balogog.
Parmi les choses attendues, la réouverture des cinémas, déjà annoncée il y a près d'un mois. Il sera de nouveau possible d'aller voir un film dès lundi, possible aussi d'aller au casino, dans les salles de jeux et dans les centres de vacances, à condition de toujours respecter les gestes barrières. Ce qui était moins attendu, c'est la reprise des activités de sport collectif dans deux jours. Le foot, le handball, le basket par exemple. En revanche, les sports de combat, eux, restent interdits pour l'instant. Il ne faut pas de contact rapproché entre les sportifs. Le Conseil national de défense estime que la situation sanitaire s'est améliorée et va continuer dans ce sens. Il prévoit un deuxième train de déconfinement à partir du 11 juillet à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les stades et les hippodromes rouvriront au public. Ils pourront accueillir 5000 personnes maximum. Les croisières fluviales seront de nouveau autorisées. Voilà qui devrait intéresser les bateaux-mouches. Et puis si les pays européens se mettent d'accord, il sera possible de partir en croisière entre les ports européens. En revanche, les boîtes de nuit, les foires, les expositions, les salons devront attendre encore. Ils ne pourront rouvrir qu'en septembre.
Armelle Balogog, et je précise qu'au cours du Conseil de défense qui a acté toutes ces nouveautés, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a noté que les indicateurs de suivi de l'épidémie en France étaient globalement bien orientés, avec 14 décès liés à la Covid-19 en 24 heures dans les hôpitaux. Mais la vigilance reste forte, notamment en Guyane, à Mayotte et en Normandie, où le taux de reproduction effectif du virus a sensiblement augmenté cette semaine, jusqu'à dépasser le seuil d'alerte fixé à 1,5. Il est d'1,6 dans la région normande. Une petite alerte qui nous rappelle en France que l'épidémie n'est pas terminée. La pandémie sur la planète est aussi loin d'être terminée. D'ailleurs, elle s'accélère en ce moment en dehors des frontières européennes, si l'on regarde au bon endroit. 150 000 nouveaux cas viennent d'être enregistrés en 24 heures dans le monde. C'est un record depuis l'apparition de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé lance donc un dur rappel à la réalité, Jérémy Lanche.
The world is in a new and dangerous phase.
Nous venons de rentrer dans une ère nouvelle et dangereuse. Dès le début de son intervention, le patron de l'OMS plante le décor. Lever un peu plus les mesures de confinement ne veut pas dire baisser la garde, ce serait même tout l'inverse.
Many people are understandably fed up with...
Beaucoup de gens, et c'est compréhensible, sont fatigués de rester chez eux, dit Tedros Ghebreyesus. Les pays veulent rouvrir leur société, leurs économies. Mais le virus se propage très vite. Il est toujours mortel et la plupart des personnes sont toujours exposées. C'est pour cela que nous appelons tous les pays et toutes les personnes à rester extrêmement vigilants. Dans le détail, la hausse des contaminations est particulièrement importante sur le continent américain, Brésil et États-Unis en tête. Alerte également en Inde, en Chine, au Pakistan et au Moyen-Orient. La reprise progressive des activités en Europe ne saurait donc être le seul baromètre de l'ampleur de la pandémie. Le rappel à l'ordre de l'OMS s'accompagne d'un rappel des gestes barrières qu'il faut toujours respecter, dit l'agence. De même que pour les États, le dépistage et l'isolement des malades et de leurs contacts.
Voilà un message difficile à faire comprendre pour certains de l'autre côté de l'Atlantique. Jérémy Lanche évoquait les États-Unis. Effectivement, le président américain fait tout pour oublier le virus. À 4 mois et demi de la présidentielle prévue en novembre, Donald Trump part en campagne. Il a prévu ce soir un rassemblement en Oklahoma à Tulsa, malgré l'avis contraire des autorités sanitaires, malgré aussi les manifestations contre les violences policières à l'encontre de la communauté noire. Tulsa fêtait d'ailleurs hier Juneteenth, le jour de la liberté, c'est-à-dire la fin de l'esclavage, Loïc Piala.
Un jour de fête, mais pas un jour férié. Pourtant, Juneteenth célèbre un moment majeur de l'histoire américaine, la fin de l'esclavage. C'est notre indépendance à nous, explique Jamal Robertson. On ne fête pas le 4 juillet. Le 4 juillet, nous n'étions pas libres, nous étions des esclaves. Dans le district de Greenwood, Juneteenth a une résonance particulière. En 1921, 2000 blancs en colère ont saccagé ce quartier noir alors riche et surnommé Black Wall Street. 300 noirs tués, oubliés des cours d'histoire. Ce n'est pas vraiment enseigné dans les écoles ici, regrette Delilah, la femme de Jamal. Peut-être plus dans les quartiers nord où a grandi mon mari, mais moi, je suis d'un quartier blanc à une heure d'ici et on n'en parle pas. Reconciliation Park commémore l'événement. Rocco Gilbert s'attarde devant la fontaine où une sculpture reproduit des scènes du massacre. Quand vous empêchez les gens de savoir d'où ils viennent, de connaître les succès qu'ont eu leurs familles, vous leur enlevez une partie de leur fierté, dit-il. Et c'est ce qu'ont vécu les Noirs dans l'Oklahoma. Personne n'a jamais été condamné pour ce qui s'est passé. L'avenue polémique de Donald Trump a au moins eu le mérite d'attirer l'attention sur Juneteenth et l'histoire de Tulsa.
Loïc Piala, depuis les États-Unis pour France Culture. En Serbie, il est aussi question d'élections, mais a priori sans rassemblement de foule électrique. Des législatives auront lieu demain dans le pays. Elles seront boycottées par une partie de la population qui accuse le président de dérive autoritaire. C'est un reportage dans la capitale serbe de Louis Seyé.
Un panneau boycott à la main, Sneza interpelle les passants sur l'un des principaux boulevards de Belgrade. Cette quinquagénaire n'ira pas voter dimanche.
Protester, boycotter, parce qu'il faut transformer ce système et parce que ces élections sont fausses et truquées, il faut boycotter.
Pour beaucoup de citoyens serbes, les législatives de dimanche sont tout sauf des élections. Le parti progressiste serbe d'Aleksandar Vučić bénéficie d'un contrôle presque total sur les médias du pays et le président est accusé de dérive autoritaire.
Ils cherchent à briser chacune de nos manifestations. Mais vous savez, nous protestons pacifiquement. Tous ces gars qui dirigent le pays sont ceux des années 90, des bellicistes, et maintenant, ils s'en prennent aux citoyens.
Rassemblés devant le Parlement, des organisations citoyennes distribuent des tracts contre ces élections. Srđan Marković était l'un des organisateurs des immenses manifestations qu'a connues le pays pendant l'hiver 2019.
Nous sommes dans une autocratie avec un seul homme qui contrôle tout. Vous devez l'aimer pour obtenir ce que vous voulez. Mais si vous ne l'aimez pas, vous n'aurez rien. Et il dit que nous le détestons. Mais je ne le déteste pas, ce n'est pas la question. On veut juste vivre dans un pays normal, un pays libre.
Du côté des autorités, on balaye ces critiques en assurant que les résultats du scrutin seront légitimes et que la majorité des citoyens serbes sont satisfaits de l'action du gouvernement.
Louis Seyé depuis Belgrade pour France Culture. La Serbie, qui est un des pays de transit a priori sûr pour les migrants avant l'arrivée en Hongrie. Et nous le soulignons particulièrement ce matin, les migrants continuent effectivement de se déplacer, de chercher refuge en pleine pandémie. Beaucoup traversent la mer Méditerranée, prenant tous les risques. Risques d'autant plus grands depuis la mi-mars que les associations ont dû arrêter leurs opérations de sauvetage en mer à cause du confinement. Dans le port de Marseille aujourd'hui, l'équipage de l'Océan Viking croise les doigts sur ce navire qui pourrait repartir vers les eaux internationales au large de la Libye dans les jours qui viennent. Mathilde Vigneux de France Bleu Provence est sur place.
Avec sa coque orange et ses 70 mètres de long, l'Ocean Viking va prendre le large le plus tôt possible parce qu'il y a urgence. Sophie Beau, la cofondatrice de l'association SOS Méditerranée.
Depuis trois mois, en fait, même si l'Europe s'est confinée, les départs de la Libye n'ont pas cessé. Il y a eu des morts. C'est des naufrages invisibles. Il y en a eu un qui a été documenté parce que des pêcheurs ont trouvé des corps qui flottaient. Voilà, c'est une crise humanitaire qui continue en fait.
Alors pour sauver le plus de vies possible, le navire est aménagé. Il peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Les 31 membres d'équipage, marins, sauveteurs, soignants, sortent tous de quatorzaine, testés négatifs à la Covid-19. Et pour limiter les risques, ils sont pour l'instant les seuls autorisés à monter à bord. Anne est médecin, elle détaille depuis sa cabine le protocole pour les sauvetages.
On leur fournit un masque, il y a une première prise de température qui est faite pour pouvoir dépister s'il y a un risque que cette personne soit atteinte de Covid. Et dans ce cas-là, la personne est isolée pour éviter une chaîne de transmission sur le bateau.
Reste donc pour l'équipage à espérer que les pays européens autorisent les migrants sauvés à débarquer rapidement dans des ports sûrs.
C'était Mathilde Vinceneux de France Bleu Provence pour France Culture. Avec nous ce matin, Filippo Grandi, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Alors après ce reportage, une question, Filippo Grandi. A-t-on une idée du nombre de personnes qui ont fui les côtes libyennes et tunisiennes, notamment ces derniers mois? Et sont-elles, si je puis dire, arrivées à bon port?
On est au courant de à peu près 20 000, 22 000 personnes qui sont arrivées en Europe à travers la mer Méditerranée, dans tous ces secteurs pendant ces derniers mois. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus ou moins le même chiffre pour la même période de l'année passée. On dit souvent que c'est les sauvetages en mer qui attirent les personnes, mais il y a eu très peu de sauvetages en mer dans les mois passés à cause du coronavirus, à cause des confinements. Donc ce n'est évidemment pas ça qui attire les personnes. Au contraire, cela est très nécessaire parce que le sauvetage permet d'éviter la perte de vies humaines en mer.
Effectivement, et visiblement, donc, la pandémie n'a pas freiné les migrants, les réfugiés à quitter leur pays. Merci Filippo Grandi, au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, invité exceptionnel des matins de France Culture ce samedi. Nous vous retrouvons évidemment plus longuement après cette édition pour évoquer la crise migratoire qui continue pendant cette crise sanitaire.
Et ce sera dans 3 minutes maintenant, puisqu'il est 8h12 sur France Culture et que c'est la suite de votre journal Clara Lecoq-Réal, avec les propositions de la Convention citoyenne sur le climat.
Oui, 150 propositions au départ, dont 96% ont été validées hier par les 150 citoyens qui participent à cette convention. Et ils sont ambitieux, ces citoyens. Ils souhaitent notamment ajouter dans la Constitution que, je cite, « la République française garantisse la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Cela ne peut pas faire de mal », estime le climatologue Jean Jouzel. Mieux, ça peut même faire bouger les lignes, selon lui.
Par exemple, on peut imaginer que si la loi n'était pas respectée en France, la loi sur la transition énergétique avec ses objectifs, eh bien, disons le fait de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter les objectifs sur l'environnement. On s'est fixé par exemple un objectif ambitieux à horizon 2050 de neutralité carbone pourrait effectivement faire l'objet de poursuites de certaines personnes puisque ça serait dans la loi de respecter on pourrait imaginer cela. Que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre, le problème de préservation de biodiversité, les problèmes de santé et d'environnement, et il pourrait y avoir beaucoup plus de poursuites de certains groupes, par exemple d'organisations non gouvernementales. On voit bien par exemple actuellement qu'il y a déjà des procès qui sont faits dans le domaine climatique, surtout à l'étranger. On a eu l'appel l'affaire du siècle en France, donc je pense que ça pourrait aussi... La Constitution modifiée en ce sens faciliterait ce type d'action.
Des propos recueillis par Véronique Rebérot lors de cette convention citoyenne sur le climat. C'est Emmanuel Macron qui décidera des propositions à retenir ou non et à soumettre peut-être à un référendum. Il recevra l'Assemblée de cette convention le lundi 29 juin dans une semaine. Emmanuel Macron qui saisit le Conseil supérieur de la magistrature après les propos polémiques de l'ancienne patronne du parquet national financier. Eliane Houlette, chargée de l'enquête qui a visé François Fillon et sa compagne, affirmaient avoir subi des pressions de la part de sa hiérarchie pour faire état de l'avancée de l'enquête. L'impartialité de la justice vis-à-vis du pouvoir politique est mise en cause, notamment par la droite. Terminons ce journal en faisant l'écho de l'inquiétude des professionnels de la musique à la veille de la fête de la musique. Une fête pour moitié vacillante cette année car les règles de distance physique restent applicables et les gros rassemblements interdits. C'est la non-fête de la musique, a lancé le directeur général de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de la musique. Le secteur subit en effet de plein fouet la crise liée au coronavirus avec des pertes, Fiona Mogadam, colossal.
Le secteur de la musique prévoit des pertes d'environ 43% de son chiffre d'affaires, soit 4,5 milliards d'euros pour cette année. Dès fin février, des concerts ont commencé à être annulés. Au total, plus de 4300 annulations de spectacles de musique classique et de création, d'après l'association Tous pour la musique. C'est l'une des activités les plus touchées, avec celle du spectacle de musiques actuelles et de variétés, qui enregistre une perte de 83% de son chiffre d'affaires annuel. Cela représente 2,3 milliards d'euros. Pour cet été, de nombreux festivals n'auront pas lieu, avec des conséquences également sur les territoires. Face à ce constat, les professionnels de la musique appellent à un véritable plan d'action. Des mesures ont été prises pour les intermittents, mais ce ne sont pas la totalité des acteurs du secteur. 4 mois sans charge ont été annoncés pour les auteurs-compositeurs. Reste à le traduire concrètement pour le directeur général de la SACEM, Jean-Noël Tronc, qui demande le prolongement pour au moins 18 mois du dispositif d'activité partielle. Pour lui, la crise sanitaire sanitaire aura un impact direct sur la filière jusqu'à fin 2021. C'est donc l'avenir des diversités culturelles de la musique et ses 257 000 emplois qui est en jeu.
Voilà pour les inquiétudes du secteur musical. À la veille, je le rappelle, de la fête de la musique. Le soleil va briller sur le sud de la France ce samedi et fera de belles apparitions au nord de la Loire. Les averses vont s'éloigner par l'est. Dans la matinée, comptez 18 à 25 degrés.